chez le roi. Marie-France Guimaroche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver dans mon émission Bienvenue chez le roi avec un invité tout à fait exceptionnel ce matin dans les studios du Rocast de Radio Grand Ciel, Mathieu Crézon, que j'ai rencontré, mais vraiment par le plus grand des hasards, lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté et qu'il donnait au château de Versailles sur Molière. Alors vous me connaissez depuis le temps, bien entendu, je n'ai pas pu résister et j'ai demandé à Mathieu de venir jusqu'à nous, ce qu'il vient de faire. Et bonjour Mathieu Crézon, merci beaucoup d'être là.
Mais merci à vous Marie-France.
Et vous n'avez pas trop de difficultés pour venir de Paris?
Ça a roulé très bien, il n'y a pas eu de difficulté particulière.
Alors Mathieu, j'ai eu la très grande chance de vous rencontrer donc, pour cette conférence qui avait lieu à Versailles. Et vous m'avez très très intéressée, j'étais passionnée par tout ce que vous nous avez dit sur Molière. J'ai trouvé que c'était un ton assez inhabituel et vous m'avez confié que vous faisiez d'autres conférences sur d'autres sites. Quel est votre métier en fait?
Alors je travaille comme conférencier depuis maintenant pas tout à fait 10 ans, enfin pas loin. Donc d'abord j'ai exercé en tant qu'indépendant et donc depuis maintenant un peu plus de 5 ans, je travaille pour la Réunion des musées nationaux en tant que conférencier. Alors d'abord en tant que vacataire, puis en tant que titulaire depuis un petit peu moins d'un an maintenant.
Ah, donc vous fêtez votre titularisation d'une année.
Voilà, c'est ça, on peut dire les choses ainsi.
Et votre sort vous convient? Vous êtes content de faire ce que vous faites? Vous rencontrez des gens qui vous plaisent? Vous traitez les sujets que vous voulez? Comment ça se passe? Vous êtes plus particulièrement dirigé sur tel ou tel musée? Comment ça se passe?
Oui, alors à titre personnel, j'interviens essentiellement donc sur le site du château de Versailles, également au musée d'Orsay. Et donc là, on nous propose de présenter des expositions temporaires. Donc actuellement, à Versailles, il y a l'exposition Louis XV, d'ailleurs, qui est tout à fait intéressante, que je présente depuis quelques semaines. Et puis au musée d'Orsay, donc, je présente également les deux expositions du moment, c'est-à-dire l'exposition sur Edvard Munch et également la très belle exposition sur Rosa Bonheur.
Le cri?
Le parti pris du commissariat, ça a été de faire une exposition quasiment sans faire référence au cri. Il y a juste une référence sous la forme d'une lithographie à mi-parcours, mais c'est tout.
Très bien.
Et alors,
Oui, on n'est pas sur le même registre, effectivement.
Complètement différent, c'est l'opposé.
Et alors, Molière, vous allez nous parler de Molière aujourd'hui.
Voilà, Molière, puisque donc depuis le début de l'année, je fais cette visite dans le cadre donc, du château de Versailles, sur Molière à la cour, pour naturellement donc, fêter les 400 ans hein, de la naissance de Molière. Donc c'était effectivement dans ce cadre-là que nous étions rencontrés. Et donc l'idée, c'est de rappeler un petit peu comment Molière connaissait très bien la vie de cour, hein, puisqu'il avait une charge de tapissier et valet de chambre du roi.
Donc, c'est assez amusant d'ailleurs la juxtaposition des deux fonctions,
oui.
Tapissier et valet de chambre.
Oui, en fait, c'était une charge qu'il avait héritée de son père. Qui était son, alors son père, Jean Poquelin, était marchand fripier, il travaillait à Paris. Et il avait l'espoir de pouvoir transmettre donc, cette charge à son fils. Et donc c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que Molière a assisté certainement à tous les grands rituels qui ponctuaient la journée du roi, le lever du roi, le coucher du roi. Il a certainement dû voir par exemple beaucoup de médecins hein, autour de Louis XIV, notamment lors du lever, parce qu'on sait qu'au cours du lever du roi, le roi était examiné par le premier médecin et le premier chirurgien du roi pour prouver à la cour que le roi était en bonne santé. Donc peut-être s'est-il inspiré aussi de ce qu'il a vu à la cour ensuite dans ses pièces.
Peut-être on pourrait faire ça pour le président de la République, d'ailleurs à leur petit lever.
Oh, tu vois ça, non. Oh,
alors, en fait, ça lui est venu comment, cette histoire d'écrire, et particulièrement des comédies? C'est quand même très particulier,
oui.
Des comédies très acerbes.
Oui, c'est bah, comme disait Stendhal, c'est le grand peintre de l'homme tel qu'il fut. Effectivement, c'était quelqu'un qui avait une acuité absolument remarquable et qui s'est moqué de tous les travers des grands personnages de son temps, des grandes catégories de personnages de son temps. Il s'est moqué aussi bien des précieuses que des médecins. en tant que nouveau scolastique, on va dire. Et il s'est également, bien sûr, moqué des dévots, hein, des faux dévots, notamment dans le Tartuffe.
Et ça lui est venu très tôt, cette propension à l'écriture.
Alors là, je pense que en fait, son grand-père maternel a dû jouer un rôle très important dans l'éveil de cette vocation, hein, puisque en fait, le jeune Jean-Baptiste.
C'en est une.
Oui, ah oui, absolument. Ouais. Son grand-père maternel, qui s'appelait donc Louis Cressé, l'emmenait souvent avec lui dans le quartier des Halles pour voir les tréteaux, pour voir les farceurs, pour voir les saltimbanques, et donc
Le théâtre italien.
Oui, c'était des farces légères où les comédiens se distinguaient par leurs grimaces, par leurs mimiques, par leurs gestuels. On sait que Molière était connu aussi pour son jeu d'acteur, ses grimaces notamment. Il a dû certainement s'inspirer de ce qu'il a vu alors qu'il était tout petit. Et c'est également son grand-père Louis Cressé qui l'a emmené à l'hôtel de Bourgogne, qui était à l'époque donc le théâtre le plus célèbre de Paris. C'était un théâtre qui était réputé donc dans le genre de la tragédie. On sait que Molière, au départ, voulait s'imposer comme dramaturge dans le genre tragique. Et il n'a pas réussi.
En fait, les tragiques, il y avait ce qu'il fallait à la cour,
oui.
Déjà.
Oui, oui, oui.
Et heureusement qu'il n'a pas réussi.
Il a essayé, effectivement, il n'a pas réussi. Et c'est probablement par le biais de la comédie et de la farce qu'il a vraiment révélé son génie.
Vous nous avez fait voir, au cours de cette conférence, un tableau d'acteurs italiens. C'est quoi ce tableau ?
Alors oui, c'est un très beau tableau, effectivement, qui représente Tiberio Fiorilli, qui était un comédien italien, le chef, en fait, de la troupe des comédiens italiens, connu également sous le nom de Scaramouche, donc créateur du personnage de Scaramouche. Et donc, il a côtoyé Molière, puisque, en fait, Molière a beaucoup fait rire le jeune Louis XIV. On est en 1658, hein, donc Louis XIV a tout juste 20 ans. Et donc Molière va jouer devant lui et devant monsieur au Louvre, dans la salle des gardes du Louvre. Il va jouer donc le docteur amoureux, qui est une farce. Et à partir de là, pour remercier Molière, il va lui permettre d'occuper la salle du Petit Bourbon, où se produisait ou répétait régulièrement Scaramouche.
Ça lui a facilité les choses, là.
Ah oui, certainement, ça a été très important. Et on sait qu'il a été influencé par le personnage de Tiberio Fiorilli, qui lui aussi était connu pour sa gestuelle d'acteur, pour ses grimaces, pour ses mimiques.
Il s'en est largement inspiré.
Très certainement, oui, absolument. Et c'est vrai que c'est un très beau tableau qu'on peut voir à Versailles.
Ah, magnifique.
Dans le style, on va dire, caravagesque. Avec des effets de clair-obscur, caractéristiques aussi de certains peintres du Nord, du XVIIe siècle.
Alors il reprend la charge de son père donc à Versailles, et ça se déroule comment ces premières années à la cour ?
Alors il faut savoir qu'en fait Molière a assez peu connu, je pense, le Versailles, tel que nous on se le représente. Le grand appartement, la galerie des glaces, n'a jamais connu ces espaces qui ont été créés plus tard. Par contre, il connaissait très bien d'autres demeures royales, par exemple Saint-Germain-en-Laye. Je pense même qu'il est allé plus souvent à Saint-Germain-en-Laye qu'à Versailles même.
Parce qu'il habitait Paris.
Oui, oui, oui. Au départ, en fait, quand il revient à Paris, puisqu'il passe 12 ans en province, il sillonne la France, il travaille donc sous la protection du prince de Conti.
Ah oui, alors cet aspect-là, je ne connaissais absolument pas. Oui. Franchement, découvrir Molière en globe-trotteur, c'était quand même assez étonnant. Parce que pour l'époque, des voyages, ça durait quand même un certain temps, c'était coûteux, et il fallait que le prince de Conti l'aime beaucoup et le subventionne largement pour qu'il puisse avoir ses tournées. C'était des véritables tournées.
Oui, absolument. Et on se représente souvent les troupes de théâtre itinérantes comme étant des troupes qui gagnaient assez mal leur vie. C'était pas du tout le cas de Molière. Hein. Je pense que Molière devait rouler en carrosse.
D'où l'expression rouler carrosse.
Oui, peut-être. Et c'est vrai que les années qu'il a passées, notamment au château de la Grange des Prés, à Pézenas, a été une période très importante, hein, pour Molière.
Pézenas, c'est le midi de la France.
Oui, c'est le Languedoc.
Le Languedoc.
C'est le Languedoc. Et donc, c'était la résidence du prince de Conti, Armand de Bourbon, qui alors était un débauché notoire. Et donc on est en 1655, les états généraux du Languedoc devaient se dérouler au château en question, et donc les barons et le clergé local arrivent, et Armand de Bourbon prétexte que en fait il ne peut pas leur donner accès à sa chambre qui était complètement en désordre du fait qu'on allait y organiser une pièce de Molière le soir même. Et ce qui a beaucoup frappé Molière aussi, puisqu'il a été sèchement congédié finalement par son ancien protecteur, qui était passé brutalement de la débauche à la dévotion, parce qu'il s'est converti
au petit peu comme lui.
Oui, il s'était converti au précepte de la compagnie du Saint-Sacrement. Et donc, il a dû certainement en retirer un petit peu le modèle du Tartuffe. Donc, je pense que beaucoup de choses qui ont ensuite été jouées par Molière, à l'époque où il vivait à travailler à Paris, je pense que beaucoup de ces choses-là ont été vécues par lui dans ses années de province.
Et il a vraiment... passé tout un long moment avec le prince de Conti et fait des tas de pièces. C'est à ce moment-là aussi qu'il a écrit énormément pour son protecteur, j'imagine.
Oui, c'est ça. Le prince de Conti aimait beaucoup les farces de Molière. Alors, pendant une grande partie du temps, Molière, en fait, travaillait sous la direction de Charles Dufresne. Et ensuite, donc, il a pris sa succession. Il est devenu donc le directeur de la troupe itinérante et... à cette occasion, il a fait la rencontre de quelqu'un d'important, c'est l'abbé de Cognac, qui était le secrétaire particulier du prince de Conti. Le prince de Conti l'a nommé évêque de Valence, et ensuite, donc, il est entré au service de monsieur, donc le frère du roi, en tant que confesseur.
Et donc, à ce moment-là, il revient à la cour, bien sûr.
Voilà, et je pense que c'est peut-être par ce biais-là hein, que Molière rentre à Paris. On sait qu'il avait déjà cherché à se faire connaître à Paris quand il a fondé la troupe de l'Illustre Théâtre. Ça n'a pas marché, on était en 1643.
À l'époque, il n'avait d'illustre que le nom.
Oui, il a essayé de se faire connaître, effectivement, et ça a été un échec. Il avait également beaucoup de dettes. Dans un premier temps, il répétait dans l'hôtel du Jeu de Paume des Métayers. Puis finalement, il a résilié son bail. Il a accumulé les dettes à tel point que les créanciers ont intenté une action en justice contre lui.
Mais il était très très endetté malgré les subsides de son prince de Conti.
Alors là on est avant. Là on est en 1643 et il sera incarcéré à la prison du Châtelet en août 1645.
Ouf.
Et c'est à partir de là il est libéré grâce au paiement d'une caution. Et c'est à partir de là qu'il se rend compte qu'il ne peut plus rester à Paris. S'il veut rencontrer le succès,
il faut aller en province.
Et donc, il va à Rennes, il va ensuite à Nantes, et puis il va finalement à Bordeaux. Et là, il va commencer à travailler donc, sous la direction de Charles Dufresne pour le duc d'Épernon. Voilà. Et alors Conti a été nommé gouverneur de Guyenne. Conti, en fait, était le frère cadet du Grand Condé. Donc, il avait été frondeur.
Et absous.
Oui, parce qu'en fait, il a épousé une nièce du cardinal Mazarin.
Qu'il a ensuite comblé
de faveur.
Ça aide.
Voilà, et qu'il a nommé, de ce fait, gouverneur de Guyenne.
Bien sûr, voilà. Je comprends. Alors, à quel moment il est revenu vraiment à la cour et ses débuts avec Louis XIV n'ont pas été très chaleureux.
Quand même, la première rencontre avec Louis XIV, c'est 1658, hein, quand il joue donc, le Docteur Amoureux, donc une pièce qui fait beaucoup rire le jeune Louis XIV.
Ah, c'est bon signe, ça.
Voilà, c'était effectivement déjà là, bien parti, mais il était encore, à cette époque-là, il était le directeur de la troupe de Monsieur. Et ça n'est qu'en 1665 qu'il deviendra le directeur de la troupe du roi. Je pense que Louis XIV, il a vu le talent de Molière. Il faudrait voir parce qu'on sait que Louis XIV a essayé de créer une école de peintres ou de sculpteurs résolument françaises qui puisse rivaliser, bien sûr, avec les écoles italiennes. Donc il y a une véritable rivalité à cette époque-là.
Comme les miroirs de la Grande Galerie, finalement.
Oui.
Devait puisque... rivaliser avec Venise.
Oui, absolument, puisque Louis XIV avait ordonné que tous les miroirs d'origine de la galerie, 357 miroirs de la galerie, soient créés en France.
Il était résolument pour l'industrie française.
Oui, on pourrait dire.
Aidé par Colbert, sûrement.
quelque part, on pourrait dire qu'il a inventé le Made in France, hein, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Oui, il a pris cette décision par patriotisme, bien sûr, artistique et culturel.
Et donc, le théâtre aussi.
Et le théâtre aussi, je pense. Alors, il y a quand même une différence importante entre les écrivains et les artistes. Louis XIV, par le biais de Colbert, par le biais de Charles Le Brun, a imposé un véritable dirigisme artistique.
Et je pense, style Louis XIV.
Le style Louis XIV, c'est ça. Le grand historien d'art Anthony Blunt disait dans son ouvrage fondamental « Art et architecture en France 1500-1700 », il disait à Versailles, il n'y a pas vraiment d'œuvre d'art individuelle. Versailles est une prouesse de l'art collectif. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à identifier une œuvre qui serait signée vraiment par un artiste particulier.
Peut-être que c'était une sorte d'ode au roi.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est le roi n'a pas réussi à faire des écrivains ce qu'il avait réussi à faire des artistes, puisque beaucoup d'écrivains encore avaient leur public parisien. Et d'ailleurs, il faudrait voir, mais peut-être que Molière a créé certaines de ses plus grandes pièces, non pas pour la cour, non pas pour Louis XIV, mais pour son public parisien.
Et à Paris, ça se passait comment? Il avait son théâtre, il avait subventionné lui aussi?
Alors, il a beaucoup joué donc au Palais Royal, hein, lorsqu'il travaillait encore pour Monsieur. Et puis, il s'est produit également au château de Saint-Cloud, hein, bien sûr, qui était également la demeure de Monsieur. Et puis, voilà, d'autres demeures royales aussi qu'il connaissait très bien. Mais c'est vrai que Versailles, comme Molière s'est éteint en 1673, Versailles encore à l'époque était un très grand chantier.
C'était à peine construit, oui.
Oui, c'est ça. Donc, par exemple, il n'a pas connu la galerie, il n'a pas connu la chapelle royale, même les grands appartements royaux. Les grands appartements royaux ont été créés dans les années 1670.
Les grands appartements avec la chambre de roi face à la cour de marbre.
Alors, en plus, oui, cette pièce, il l'a encore moins connue, si j'ose dire, puisque c'est une pièce qui a été créée en 1701. Et Louis XIV l'a utilisée comme chambre, alors à la fois comme
chambre d'apparat.
Chambre d'apparat, voilà, jusqu'à son décès en 1715. Mais le grand appartement du roi, donc cette enfilade de pièces, initialement 7 pièces consacrées.
C'est énorme.
Il ne les a pas connues, puisque ce sont des pièces qui ont été aménagées sous la direction de Charles Le Brun. Donc c'est un petit peu difficile de savoir quel est le Versailles que Molière a vu.
Et il devait partager aussi, mais ça peut-être c'était simplement à Paris, certaines scènes avec les Italiens.
Alors oui, c'est ça. Notamment donc, dans cet hôtel du Petit Bourbon, qui était une salle où il répétait, où il pouvait représenter des pièces.
Où était-elle, cette salle?
Alors c'était une salle qui se trouvait en face de l'entrée orientale du Louvre. Alors voyez, vous avez la grande colonnade du Louvre, mm-hmm. à laquelle on se réfère souvent sous le nom de colonnade de Perrault. Initialement, Louis XIV avait fait venir depuis Rome le Bernin en 1665 pour rénover complètement le palais du Louvre. Et puis finalement, il a donné cette commande finalement à Charles Lebrun, à Louis Levaux, son premier peintre, son premier
et
architecte.
Et le Bernin est retourné en Italie. Déçu, j'imagine. Il n'a fait qu'une seule chose, c'est un buste de Louis XIV qui est absolument magnifique.
Voilà, exactement.
Mais c'est la seule chose qu'il ait faite à Versailles.
Oui, c'est à peu près la seule chose. Il a fait quelques projets, mais quasiment tous ses projets ont été refusés. Et notamment, effectivement, son projet de refonte complète du Palais du Louvre. Et d'ailleurs, on dit souvent que c'est à compter de cette... Ce refus de la part de Louis XIV hein, des projets du Bernin, que la France a commencé à donner le ton en Europe, et notamment en Italie, en matière artistique et architecturale.
Avec les propres choix du roi.
Oui, effectivement. Et on pourrait dire que si Paris, Versailles et la France plus généralement ont occupé le devant de la scène en matière artistique au XVIIIe siècle, ça vient peut-être en partie de là. Alors, peut-être qu'on peut parler, je ne sais pas, des amours de
Les amours, de les amours, mais vaste sujet.
Oui, 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 alors effectivement...
Un peu compliqué peut-être, ces histoires d'amour.
Un petit peu compliqué. Alors, je pense que Molière a beaucoup pâti des critiques qui lui ont été faites sur sa vie privée. D'ailleurs, il répondra à ses détracteurs en disant qu'ils peuvent très bien s'attaquer au fond de ses pièces, hein, mais certainement pas donc à sa vie personnelle. Alors déjà, du temps où il avait caressé le projet de réussir à Paris, en fondant la troupe de l'illustre théâtre, il avait fondé avec une dizaine de camarades, et notamment plusieurs membres de la fratrie des Béjart, et notamment Madeleine, dont il va s'enticher, et qui va même devenir sa maîtresse.
Elle était belle ?
Oui, oui, elle était belle, effectivement, et elle sera promise à un très grand avenir.
Vous en parlez avec affection, comme si vous l'aviez connue, Mathieu.
Non, mais en tout cas, Molière a beaucoup pâti, effectivement, des critiques qui lui ont été faites, puisque finalement, il va épouser la fille de Madeleine, c'est-à-dire Armande. Et donc, le mariage a été célébré en 1662.
Avec la bénédiction de Madeleine ?
Alors ça, je ne sais pas, non, pas vraiment certainement, mais en tout cas, quelques mois plus tard, il joue pour la première fois l'école des femmes au Palais Royal, et donc il va essuyer de nombreuses critiques, alors notamment une critique qui a été adressée par Thomas Corneille, c'est-à-dire le frère cadet du grand Corneille, Pierre Corneille, qui va en fait s'attaquer à cette pièce en disant que c'est une pièce finalement de bas étage, réalisée par des farceurs qui cherchent à amuser le public.
Il craignait la concurrence pour son frère, dites donc.
Oui, absolument, absolument. Il considérait que c'était au détriment du grand théâtre hein, par excellence, c'est-à-dire le genre tragique.
C'est ouais. Vrai que c'est très différent, mais de toute façon, il y a toujours cette histoire de rivalité dans les troupes de théâtre et dans les auteurs. J'imagine que c'est... Maintenant, c'est encore la même chose.
Certainement, mais...
On oppose le théâtre classique, la comédie française, au théâtre de boulevard.
Absolument. Mais je pense que Molière, au départ, est un admirateur hein, du théâtre de Corneille. D'ailleurs, il avait assisté à une représentation du Cid en 1637... certainement avec son grand-père maternel, Louis Cressé. Et encore une fois, il avait rêvé, c'est vrai, de se faire connaître dans ce registre. Et on peut dire que Molière a réussi à donner ses lettres de noblesse au genre de la comédie, hein, et également de la farce.
On abandonne la vie intime de Molière et on termine par quoi ? Ses succès ? Sa gloire ?
Alors, ses succès, on va dire qu'il a terminé sa vie par peut-être un demi-succès.
Seulement un demi-succès ?
Oui, oui, oui. En fait, il avait touché une pension annuelle du roi, et quelques années seulement avant sa mort, en 1673, il ne va plus toucher cette pension, je pense pour un ensemble de raisons, notamment alors les critiques hein, que Molière avait essuyées pour son Tartuffe. Pendant de nombreuses années.
Corrosif, le Tartuffe.
Oui, oui, très, très, très corrosif. Ça a fait beaucoup rire hein, Louis XIV quand il l'a vu pour la première fois en 1664.
Mais il les connaissait, les Tartuffes. Hein,
oui, 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 il était bien placé, effectivement. Mais il avait, je pense, besoin de l'appui des dévots pour pouvoir mater le jansénisme. Il redoutait que le jansénisme ne constituât une sorte d'état dans l'état. Et donc cette pièce, en fait, a été interdite pendant 5 ans. Elle sera rejouée pour la première fois en public à nouveau.
Il l'a remaniée.
Oui, c'est ça. Il l'a édulcorée dans un premier temps. Il a changé le titre de la pièce. Donc la pièce a été intitulée finalement « L'imposteur ».
C'est presque pire.
Mais l'archevêque de Paris l'a quand même fait interdire. Hein.
Et est-ce qu'il y a eu cette bascule au moment où Louis XIV a épousé Madame de Maintenon ?
Alors, je pense que oui, effectivement, on dit souvent que le règne de Louis XIV peut être divisé en 2 grandes phases. Donc, il y a la première phase, effectivement, qui commence avec ce qu'on appelle le règne personnel de Louis XIV en 1661, quand Mazarin décède. Hein, le lendemain, on sait que Louis XIV fait une déclaration devant ses ministres. Je pense d'ailleurs que certains de ses ministres ont dû rire en entendant cela. Louis XIV, effectivement, qui leur dit que dorénavant, il va gouverner seul, sans Premier ministre. Et donc pour Louis XIV, c'est vraiment l'épisode marquant hein, qui devait ouvrir une ère de prospérité nouvelle pour la France sans précédent.
C'est à ce moment-là qu'il a dit « l'État, c'est moi ».
Alors il l'aurait dit, hein, je pense que c'est une phrase apocryphe de Louis XIV, mais enfin bon, elle incarne parfaitement l'esprit de l'absolutisme royal Louis XIVien.
Mais alors quand même, le début du règne de Louis XIV, c'est la fête, l'île enchantée, oui. Les carousels, enfin c'est quand même extraordinaire, il y a une flamboyance de théâtre, de fêtes, de banquets, ça doit être extraordinaire. Et puis ensuite, il y a Madame de Maintenon voilà. Sur le tard, et là ça devient quand même beaucoup moins drôle.
Oui, alors peut-être d'ailleurs a-t-on un petit peu exagéré l'influence de Madame de Maintenon sur Louis XIV. Elle a certainement joué un rôle dans son évolution personnelle, mais on sait que vers 1683, il perd effectivement la reine Marie-Thérèse, il se remarie en secret, c'est le mariage morganatique avec Madame de Maintenon. Et effectivement, l'ambiance générale qui règne à la cour de Versailles devient beaucoup plus formelle, plus austère. Donc je pense que le nombre de représentations théâtrales diminue. Il y a moins de divertissement, effectivement, moins de jeux organisés. Néanmoins, Louis XIV veut quand même encore assister à certaines pièces de Molière sous la censure vigilante hein, de Madame de Maintenon. Par exemple, elle veille à ce que tous les rôles féminins soient joués par des hommes hein, déguisés.
Allons bon. Elle se méfiait des comédiennes.
Elle se méfiait des comédiennes. Il ne fallait pas donner trop de pièces légères. Elle préférait des pièces un petit peu plus sérieuses.
Allons bon.
Et donc Louis XIV, jusqu'à la fin de son règne, en fait, a encore continué à voir des pièces de Molière. Donc plusieurs années après le décès de Molière, en 1673, on sait d'ailleurs hein, que Molière est décédé après la quatrième représentation du Malade imaginaire. Il avait joué le rôle-titre d'Argan. Et un an plus tard, eh bien, Louis XIV fait jouer pour la première fois à Versailles le Malade imaginaire dans les jardins de Versailles, à côté de la grotte de Tétis, hein, qui aujourd'hui a disparu.
Et vous voilà. Parliez de 1683, mais est-ce que ça n'est pas la date où Louis XIV s'est vraiment installé à Versailles?
Absolument. Il décide d'emmener sa cour à Versailles, ou qu'il l'installe de manière permanente, en 1682. Donc également, Colbert va s'éteindre. Colbert va être remplacé par Louvois. Et donc là, vous avez de plus en plus de guerres, hein, qui sont des guerres, on pourrait dire, de pure agression, qui n'ont rien vraiment apporté à la France.
Et c'est à cause de ces guerres qu'on a fondu le mobilier d'argent.
Alors oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, Louis XIV, pour tenter de résorber la crise financière qui avait accompagné l'éclatement de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, a décidé effectivement d'envoyer le magnifique mobilier en argent massif qu'il avait commandé, dont il ne reste malheureusement plus rien. Il l'a envoyé...
Sauf à la cour d'Angleterre.
Voilà, c'est ça. Et il a donc envoyé à Paris, à la Monnaie, pour être fondu. Au passage, ça a été un très mauvais calcul hein, de la part de Louis XIV, puisqu'il avait dépensé la somme de 9 millions de livres pour l'acquérir, et finalement, il n'a pu en récupérer que 2 millions.
Dommage. Alors finalement, il ne reste que l'esprit de Molière pour nous réjouir à la cour de Versailles.
C'est ça, et quelques années plus tard, en 1680, Louis XIV... sans doute par hommage envers le personnage de Molière, décide de faire fusionner les deux troupes rivales, c'est-à-dire donc celle de l'hôtel de Bourgogne et celle du anciennement le Petit Bourbon, pour voilà, créer donc la Comédie française qui est associée au ouais. Nom même de Molière.
Et la Comédie française est toujours en vie.
Absolument.
Mathieu Crézon, merci infiniment d'être venu me retrouver dans les studios du Rocast de Radio Grand Ciel. Roland Richard a enregistré cette émission et la réalisera pour vous, chers auditeurs. À bientôt, Mathieu, vous reviendrez dans nos studios.
Avec le plus grand plaisir.
Au revoir, à bientôt.